Ça s'est joué en 5 ans à peine, entre 1966 et 1971. 1966, date de l'enregistrement du premier album de The Doors. 1971, année de la mort de Jim Morrison. Ce qui s'est joué en 5 ans à peine, c'est une musique nouvelle qui puise à la fois dans le jazz, la bossa nova ou le cabaret berlinois. Mais en cas d'égarement, les 4 gars des Doors retrouvaient le blues pour boussole. Ce matin, Pop & Co est donc Pop & The Doors, avec Jim Morrison en poster, forcément. Photographié en pantalon de cuir en janvier 67, torse nu, les côtes saillantes, comme en Saint-Sébastien de la côte ouest, ou comme Dionysos. Ou peut-être les deux. Morrison Jim, l'un des poètes qui ont fait entrer le rock'n'roll dans l'âge adulte, alors que son corps, sa gestuelle et ses dérives ont incarné la révolte de toute une jeunesse. C'était les années 60, Morrison et The Doors en ont écrit une partie de la bande-son sombre et fascinante. Ça fera 50 ans pile le 3 juillet prochain que Jim Morrison est décédé à Paris, ce qui occasionnera sans doute des pèlerinages au Père Lachaise. Nos pèlerinages à nous se font plutôt dans des studios de musiciens. Ce matin, on entre dans celui de Rover, qui vient de publier son 3e album. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit « Gardez la fougue, c'est l'ambition ». Garder la fougue, c'est peut-être pas mal pour finir un sommaire. Bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
1966. C'est par ces quelques notes que le magazine 5 colonnes à la une ouvre un numéro dédié à la Californie. Son soleil, sa jeunesse, ses côtes magnifiques, ses routes infinies, et puis...
Los Angeles, la mégapolis de l'avenir. Une masse urbaine de 100 km sur 50. Mais à côté des quartiers les plus connus, Hollywood, Beverly Hills, Watts, un grand village de 50 000 habitants au bord du Pacifique, Venise.
Les Américains disent Venise. C'est là que vit James Douglas Morrison, dit Jim Morrison, inscrit en section cinéma à l'Université de Californie.
Et pour échapper au type de civilisation offert par Los Angeles, au-delà des philosophies ésotériques, d'assez nombreux Vénitiens se réfugient dans le dernier hallucinogène à la mode, le LSD.
Pourquoi vous en prenez ? Demande le journaliste aux habitants de Venise.
À San Francisco, il y a un chat qui prend du LSD. Ça n'a pas l'air de l'avoir affecté. À un moment donné, la civilisation américaine, toute la civilisation occidentale en fait, s'est perdue, s'est emmêlée dans la technologie, en fabriquant des super gadgets. Je prends du LSD parce que c'est très, vraiment très agréable. Ça me permet de faire des choses normalement impossibles, avec mes yeux, mon esprit, mon corps.
Jim Morrison se nourrit de LSD et d'un repas par jour quand il en a les moyens, et à la radio, on entend ceci. Le quatuor de The Mamas and the Papas livre l'une des chansons du mouvement hippie en célébrant la Californie. Ce serait une nouvelle version du rêve américain du milieu des 60s. La scène musicale de Los Angeles déborde. C'est la foule dans les clubs au point qu'à l'automne 66, les autorités imposent un couvre-feu. Folk rock, pop baroque, rock garage, début du psychédélisme. Et The Doors déboule là au milieu. La vraie vie est imaginaire. C'est par cette phrase de Virginia Woolf que Jean-Yves Rezeau ouvre son livre intitulé « Jim Morrison ou les portes de la perception ».
Mais ce qui était extraordinaire quand on était jeune à la fin des années 60, c'est que toutes les semaines, il y a des disques incroyables qui sortaient et on ne savait jamais dans quelle direction ça allait aller. Quoi. Parce que c'était une époque où on avait l'impression que tout était possible, que tout était à faire.
Tout était possible, comme mélanger la poésie et le rock psychédélique. Tout est possible pour ces quatre gars. John Densmore, batteur, Ray Manzarek, claviériste, Robbie Krieger, guitariste et Jim Morrison, poète.
C'est-à-dire que c'était assez rare d'avoir un groupe aussi diversifié. le batteur venait du jazz, les claviers venaient du rhythm and blues, le guitariste venait du flamenco et de la bossa nova. Et ça, ça a fait un mélange assez détonnant avec les paroles en plus, quoi.
Et Jim Morrison, il venait d'où, lui ?
La musique, c'était pas tellement son affaire. Lui, c'est un poète, hein, c'est un écrivain, c'est un lecteur. Donc pas du tout, il n'a pas de formation musicale. Il écoutait assez peu de disques quand il était adolescent. Il y a un côté opportuniste, là. Il se dit, ah, je vais pouvoir faire écouter mes poèmes grâce à la musique. Break on through to the other side. Break on through to the other
side. Break on through to the other side, yeah. Break on through to the other side est le premier 45 tours des Doors. Il sort en 1967 et c'est un bide. Mais c'est surtout un acte de naissance. Les paroles de Morrison renvoient à quelques-uns des auteurs qui l'ont façonné. Le romancier et philosophe anglais Aldous Huxley d'abord. Huxley, auteur des Portes de la Perception, The Doors of Perception, titre qui donnera son nom au groupe. Huxley se réfère lui-même à un poète anglais, William Blake, dont je vous cite un vers, « Le chemin de l'excès mène au palais de la sagesse ». Break on through est un texte gigogne. Break on through est plus qu'un début, c'est un programme entier, sauter dans l'inconnu. Go ?
Bah ouais.
Bienvenue dans la cuisine d'Arthur H.
Ça me touche de parler de Jim Morrison. Jim Morrison. Parce que, ouais, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, quelqu'un qui était important pour moi intimement, en fait, parce que je pense que, comme beaucoup d'adolescents, c'était une sorte de modèle à la fois inatteignable et en même temps très proche. Vraiment un frère d'âme dans son rapport à la poésie et aussi à la poésie française, par exemple. Moi, j'étais scotché dans Rimbaud et Baudelaire. Lui aussi, par exemple, ça crée un lien quand même.
Ça, ça n'est pas de la littérature française, mais allemande. Une chanson de Bertolt Brecht et Kurt Weill, écrite à la fin des années 20. L'adaptation qu'en font les Doors s'intitule Alabama Song. Elle figure sur le premier album des Doors. Et déjà, ils font bouger le curseur du rock'n'roll.
La musique me parlait beaucoup parce que c'était moins un blues rock que les Rolling Stones, tout ça. Il y avait beaucoup d'influence. Par exemple, ils avaient cette influence de Kurt Weill, de Cabaret. Donc il y avait vraiment un vrai pont avec l'Europe. Disons qu'un jeune Européen pouvait s'identifier à eux d'une manière culturellement assez intime. Quoi.
C'est du sous Mick Jagger éructant une poésie merdique. C'est d'abord ce que pense Jack Holzman, patron du label Elektra, jusqu'à ce qu'il entende ce morceau qu'on vient d'écouter. Jack Holzman fait signer un contrat aux Doors pour l'enregistrement d'un premier album. Quand le disque sort en janvier 67, sur le communiqué de presse, on lit « Les Doors semblent évoluer dans leur propre monde. Les chansons du groupe sont comme l'espace, elles sont ancestrales. Quand elles cessent, il y a une seconde de silence. Well, » Arthur H.
La poésie de Morrison, elle a été, comme tous les mecs de cette époque, complètement imprégnée. Elle est née, c'est des graines qu'on poussait sur le fumier des beatniks, quoi, de Kerouac, Burroughs et Ginsberg.
Toute la Beat Generation.
La Beat Generation qui ont complètement explosé la langue, qui sont vraiment l'équivalent du surréalisme pour nous. C'est-à-dire que la langue anglaise a été complètement dynamitée et se sont inspirés pour le mettre dans la musique populaire. Tout en gardant cette tonalité vraiment très très poétique, très ambitieuse.
Soul,
et cette espèce de spleen adolescent très puissant aussi, très fort, un peu macabre. Ce qui me fascinait, c'est cette espèce de mélancolie cosmique, quoi, cette espèce de mec qui n'est pas vraiment de ce monde. Il essaie d'incarner un monde poétique pur, mais c'est fatalement voué à l'échec. Ça ne peut pas marcher, donc il se crame complètement. Ça, pour moi, ça me touchait beaucoup aussi, ce côté-là. Puis, il y a aussi peut-être le côté enfant triste. Il est très sensible dans un milieu vraiment très dogmatique, avec pas beaucoup de tendresse, très réactionnaire. Il y a des principes, il faut coller aux principes, puis c'est tout, quoi. Puis tu fermes ta gueule. Et puis, donc lui, il est complètement inadapté à sa propre famille, quoi. C'est vraiment... Il déteste son père, et puis son père, c'est un mec qui monte dans la hiérarchie militaire des années 50-60 américains. Tu peux pas... imaginer quelque chose de plus opposé que ça, quoi. Du coup, c'est vraiment un enfant blessé qui rejette très très violemment, avec une grande violence, il rejette sa famille, quoi. C'est jusqu'au moment où il n'a plus aucun contact avec eux. Ce côté enfant blessé, enfant qui attend son père qui vient jamais, son père il est toujours au coin du monde en train de faire des trucs incroyables dont il n'a pas le droit de parler, et puis finalement... Il revient dans sa famille, il se fait chier, son père, tu vois, donc il repart tout de suite. Et... Malheureusement, comme énormément de gens sont aussi des enfants blessés et des ex-enfants tristes, c'est pas le seul artiste qui incarne ça, mais Morrison, il peut vraiment incarner ça, ouais.
L'enregistrement du premier album des Doors commence le 24 août 1966 au Sunset Sound Recorders de Los Angeles. Le guitariste Robbie Krieger raconte « On était dans un état de peur et d'excitation, parce que nous ne savions rien du studio et nous avons joué avec la même intensité, la même folie qu'en concert. Ce morceau, The End, c'est comme un bateau ivre, un long raga indien et une psalmodie. »
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again.
Voici comment le guitariste Robbie Krieger poursuit le récit de l'enregistrement de cette chanson. Bruce Botnick, notre ingénieur du son, avait apporté un téléviseur en studio pour pouvoir regarder du baseball. Jim avait ingurgité énormément d'acide et il a jugé que le baseball ne collait pas du tout à l'ambiance qu'il essayait de créer sur The End. Alors il a balancé le foutu téléviseur à travers la vitre de la salle de contrôle, ce qui n'a échappé à personne. Paul Rothschild, producteur qui supervise les sessions, réussit à canaliser Morrison. Il plonge le studio dans la pénombre. Au milieu du morceau, il dit à son ingé son: « Tu sais ce qui se passe là en ce moment? C'est l'histoire qui s'écrit. »
Au début, c'était une chanson de rupture amoureuse, relativement banale au début. Mais ce qui va être très important pour les Doors, c'est la scène. Et sur la scène, ce morceau, qui était un morceau comme un autre, devient une véritable dramaturgie. Le morceau, déjà sur disque, il dure 7-8 minutes, mais sur scène, il peut durer jusqu'à 20 minutes. Hein. Et cette chanson-là, il va modifier les paroles au fil des soirs, notamment quand il est au Whisky à Gogo.
Le Whisky à Gogo, c'est un club de Los Angeles.
Un club de Los Angeles, où c'est là où ils vont éclater, où ils vont se faire remarquer. C'est des chansons qui s'étirent et où là, il va mettre tous ses fantasmes. Il est question de tuer le père, de le coucher avec la mère. Donc ça, c'est des thèmes qui n'étaient jamais abordés dans le rock à cette époque-là.
Father, yes, son, I want to kill you. Mother, I want to.
Dans un document promotionnel au début du groupe, il déclara qu'il est orphelin, que son père et sa mère sont morts. Donc là, c'est vraiment un homme nouveau qui apparaît et tout son passé n'existe plus, quoi. Il gomme toute son enfance et son adolescence.
Come on, baby, take a chance with us.
De l'autre côté des États-Unis, à New York.
Come on, baby, take a chance with us.
Un autre garçon crée un groupe qui va aussi changer l'histoire de la musique mondiale. Il s'appelle Lou Reed, pas de père amiral, mais une mère qui lui a fait subir des électrochocs pour tenter de remédier à son homosexualité quand il était adolescent. Avec John Cale, Lou Reed fonde le Velvet Underground, The Doors à l'ouest et le Velvet à l'est, deux pôles d'une musique qui raconte l'envers, voire la face sombre de l'utopie hippie. Avec Jim Morrison et Lou Reed, le sexe, la drogue, la peur, la marge font leur entrée dans le rock'n'roll. Une musique qui n'est plus seulement là pour divertir la jeunesse, mais qui est entrée dans l'âge adulte. À la fin des années 70, quand Francis Ford Coppola finalise le montage de son film Apocalypse Now, il choisit ce morceau des Doors, The End, pour les premières images. The End, pour un chef-d'œuvre qui raconte la folie de la guerre du Vietnam, les morceaux des Doors, pour la bande-son de la révolte, autant que de l'utopie perdue des années 60. La parole est à Arthur H.
Flower Power, c'est un peu une image d'Épinal. Les années 60 ont toujours été très violentes. La guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam et tout ça, qui était elle-même extrêmement violente. Mais à part ça, il y avait, je trouve, la plus grande violence, c'était la coupure entre deux générations. C'est-à-dire que des gens qui écoutaient Tino Rossi, et tout d'un coup, t'as Jimi Hendrix qui arrive, quoi. Le choc, pas seulement musical, évidemment musical est énorme, mais de conscience, de saut dans l'inconnu, et de dire, tu détruisais un vieux monde qui correspondait plus du tout. Parce que, c'est-à-dire qu'on fait vraiment, pour de vraies table rase du passé, et on réinvente notre vie. Et tout d'un coup, le passé, on le fout juste dans la poubelle, quoi. Ce truc-là a été évidemment extrêmement vivifiant artistiquement, tu vois, d'une puissance créatrice incroyable, mais très très violent et très destructeur aussi, tu vois, c'est très difficile à gérer, quoi.
Extrait du texte de ce morceau, 5-1, les vieux deviennent vieux et les jeunes deviennent plus forts. Ça peut prendre une semaine et peut-être plus longtemps. Ils ont les flingues, mais nous avons le nombre. On va gagner, ouais.
C'est que l'autorité n'est plus adéquate. Que ça soit des parents, de l'État, n'est plus quelque chose en laquelle on peut avoir vraiment confiance, quoi. À l'époque, ils ont dit pour la première fois, vous n'êtes plus crédible. Vous avez trop merdé, quoi. Et on n'a pas du tout résolu ce problème. C'est-à-dire que dans les années 60, ils ont dit, voilà, il y a ça comme problème, qu'est-ce qu'on fait? On invente un nouveau monde, mais personne n'a inventé de nouveau monde, ça n'a jamais existé, tu vois. Donc on vit avec le vieux monde, tout en sachant qu'il ne marche pas, quoi.
Gonna make it, baby, in our prime. Got together one more time. Get together one more time.
Nous voulons le monde, et nous le voulons maintenant. Ce sont les paroles slogans d'un autre morceau des Doors, intitulé « When the Music's Over ».
Cancel my subscription to the resurrection. Send my credentials to the house of detention.
La puissance de Morrison pour réveiller la jeunesse explose sur scène. Il met en pratique ce qu'il a lu dans des ouvrages dédiés à la psychologie des foules. Pour sa gestuelle, il s'inspire notamment de Marlène Dietrich, dont il a visionné les films pendant ses études de cinéma en Californie. La suite de Morrison sur scène, c'est Jean-Yves Rezeau qui vous la raconte.
Un moment choc pour Morrison, c'est sa rencontre avec le Living Theatre. Living Theatre, c'était une troupe d'avant-garde. C'est bien plus que du théâtre, c'est de l'improvisation sur scène, et hors scène d'ailleurs, parce que ça se passait autant parmi les spectateurs que sur scène. Il était question de se dénuder, toutes les provocations étaient permises, et quand Morrison va tomber là-dessus, alors là, pour lui, ça va être une révélation totale. Morrison, c'est un des premiers aussi à avoir dépassé la scène, il descendait dans le public, et ça se faisait pas du tout.
Before I sink it into the big sleeping.
Ce qui est très important, c'est que les musiciens sont géniaux parce qu'ils vont comprendre à qui ils ont affaire. Et par exemple, le batteur Densmore, c'est lui qui, si on écoute bien, notamment tout ce qui est live, il sait exactement quand il faut s'arrêter, quand il faut reprendre, toutes les modulations. Et ça, il a été extrêmement subtil, Densmore, hein, à ce niveau-là. Il se demandait toujours jusqu'où ça pouvait aller avec Morrison, hein, parce que on voit qu'ils sont eux-mêmes inquiets, quoi, parce que tout peut arriver.
Et tout arrivera. Le meilleur comme le pire. Des soirs où Morrison tient le public comme en laisse. Des soirs où il s'écroule, ivre et défoncé. Il se fait arrêter sur scène, gueule contre le public à Miami un soir de mars 69. Vous n'êtes pas simplement venu écouter de la musique, non? Vous êtes venu au cirque. Mais avant de mettre fin lui-même au sexe symbole qu'il est devenu, il a imposé sa voix en une année à peine. Arthur Ashe.
Une des énigmes, c'est sa voix qui est le produit aussi d'une détente extraordinaire dans son corps. Parce que tu peux pas chanter comme il chante sans que ton corps soit vraiment détendu, quoi. C'est impossible. Et Jim Morrison, il est passé de non-chanteur, non-musicien, et qui a un goût pour la musique, mais pas plus que ça. Il est surtout très attiré par la littérature, les mots, le cinéma. Et il passe de ça à chanteur extraordinaire, quoi. Sans, évidemment, c'est pas le genre de mec qui va aller prendre des cours de chant pour améliorer sa technique, quoi. C'est pas le trip, quoi. C'est pas du tout ça, quoi. C'est-à-dire que sa voix, tout d'un coup, sort et il atteint un espèce de summum de l'art du chant sans rien faire, quoi.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you. Girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Il peut chanter tout doucement, c'est très sensuel, très beau. Il peut hurler sa race, c'est très très puissant. Il passe de l'un à l'autre avec aucun problème. Il avait quand même des modèles de chanteurs qui étaient principalement Elvis Presley et Frank Sinatra, sauf qu'il l'a emmené dans un territoire très très différent que Elvis et Sinatra, un territoire psychédélique, aventureux, rock'n'roll, quoi, vraiment extrêmement loin de ses modèles, mais quand même, son ADN, c'est Sinatra, bizarrement, quoi. En fait, d'écouter les Doors, ça m'a ouvert le chemin de ma vie. C'est-à-dire que moi, je chantais très mal, j'entendais ce mec qui chantait si divinement bien, et je me suis dit, un jour, je vais chanter comme ça. Je chantais de manière ouverte. Pour moi, c'était un programme. Les Doors, c'était vraiment un programme politique. J'étais absolument incapable de le faire, mais je savais qu'un jour, j'arriverais au moins à toucher un peu quelques points de ce programme politique, et d'ailleurs, c'est arrivé. J'ai eu des moments sur scène de trans collective, j'en ai eu plein. J'ai eu des moments où ma voix s'est complètement libérée. Donc, c'était une étoile très lointaine, mais je l'ai suivie et elle m'a emmené là où, où je voulais aller, quoi.
Ah ouais, donc c'est vraiment un groupe qui a changé votre vie.
Complètement. Et après, mais très tard, à 19 ans, j'ai découvert Gainsbourg. Et là, je me suis dit, ah putain, mais je peux le faire en français. Gainsbourg et les Doors, ouais, c'était mes deux hommes politiques favoris, tu vois, avec le programme, le truc, voilà, tu dois faire ça, faire ça, faire ça. Bon, pour les Doors, on peut dire que c'est des gens qui ouvrent des portes. Ouais. Ouvert grand la porte, les Doors. Ouais.
True, you know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. China, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on.
Pop & Co.
Et ce matin, Pop & Co et Pop & The Doors. Petit rappel des forces en présence. À la guitare, Robbie Krieger, qui est d'ailleurs l'auteur de ce titre, Light My Fire. À la batterie, John Densmore. Au clavier, Raymond Zarek. À la déclamation et au chant, Jim Morrison. À la basse, personne. Pas de bassiste, parce qu'ils n'ont pas trouvé celui qui leur convenait. Il y en aura plusieurs sur disque, mais jamais sur scène. Pas de bassiste. Et ça va devenir leur signature sonore, puisque c'est Raymond Zarek qui va l'assurer au clavier. Alors que la guitare est au centre du jeu de la musique des années 60, The Doors change la donne. L'instrument qui a le premier rôle a des touches noires et blanches. Jean-Yves Rezon.
Il y a quelque chose qui est très important chez les Doors aussi, c'est leur producteur, Paul Rothschild. Paul Rothschild, c'est quelqu'un qui vient du folk, donc il a quasiment jamais enregistré de groupe rock avant les Doors. Mais Paul Rothschild, c'est un type très très brillant et qui va bien comprendre à qui il a affaire avec Morrison et avec la profondeur des textes. Et lui et Bruce Motnick, qui était son assistant, ils vont beaucoup jouer sur les sons et contribuer à créer une ambiance un peu inquiétante. Et ça, ils vont savoir le faire. Ils vont rajouter des bruits d'orage, ils vont passer des bouts de morceaux à l'envers, ils vont faire des montages de cri de Morrison alors que Morrison est en train de chanter. Il y aura un énorme travail de studio là, qui sera fait par Rothschild et Botnick.
France Inter. Édition 13h.
Nous sommes le 10 août 69, Yves Mourouzi au micro.
Voilà, il est 13h, nous sommes dimanche et j'espère que vous allez passer une bonne journée de détente. Une enquête qui ne fait que commencer à Los Angeles, celle-ci en effet, au fil des heures, la police américaine tente d'identifier les victimes de la tuerie de Los Angeles. Un débile mental a tiré hier soir en effet, c'est tout moins ce qu'on pense, sur 5 personnes, dont la femme du metteur en scène, Roman Polanski, la femme qui s'appelait Sharon Tate et qui a trouvé la mort dans cette sinistre affaire.
Et la cinquième victime a été identifiée, il s'agit d'un jeune homme âgé de 18 ans, son corps a été trouvé au volant d'une voiture, vraisemblablement selon la police, il tentait de s'échapper quand il a été abattu. Quoi qu'il en soit, on est encore au début de cette enquête.
Une enquête qui risque de faire du bruit, surtout dans les milieux du cinéma.
Le massacre perpétré par Charles Manson et ses complices dans la nuit du 8 au 9 août 1969 dans une villa de Los Angeles fait 5 victimes. L'événement traumatise l'Amérique tout entière. Après l'assassinat de Kennedy, c'est comme si les États-Unis avaient confirmation qu'ils ont en leur sein un ennemi intérieur, ce qui va alimenter une paranoïa collective. L.A. Woman, morceau qui donnera son titre au dernier album des Doors avec Morrison, est la bande originale de ce moment-là. L.A. Woman se déroule comme un travelling à toute blinde, un polar urbain, déclaration d'amour-haine à la ville de Los Angeles. Dionysos, roi lézard, mi-homme, mi-saurien, quand il enregistre cet album ultime, Morrison a définitivement renoncé à toute cette mythologie. Jean-Yves Rezeau.
C'est une des raisons aussi pour lesquelles il va notamment boire beaucoup, c'est pour casser son physique. C'est pour ça qu'il sera poussé une longue barbe aussi, c'est pour paraître de moins en moins beau.
Pour s'abîmer.
Pour s'abîmer, ouais. Sur le premier album, il sera le visage très en avant, les trois autres en arrière. Mais après, c'est fini. Ça va l'amuser pendant un an, ça, cette histoire de sexe symbole. Parce que tout de suite, on va dire que c'est un sexe symbole. Parce que lui, il se veut poète, écrivain. Il se veut pas rockstar, quoi, du tout. Et donc, très rapidement, il ne voudra plus qu'il y ait sa photo en pochette des albums. On le reverra juste sur le dernier disque. Et encore, si on regarde bien cette pochette, il est tout petit dans un coin à droite. Alors que du coup, les autres sont un peu plus en avant, comme s'il était presque en train de disparaître. C'est très surprenant.
Tu peux pas le récupérer, c'est une espèce de grosse masse, tu vois, chiante, quoi. Que tout le monde dit, putain, il a encore fait, merde, qu'est-ce qu'on va faire? Il est vraiment bon à rien, quoi, parce qu'il allait tellement loin dans des états comme ça de chaos, de destruction, qu'il pouvait plus du tout chanter au bout d'un moment, quoi, c'est sûr. Et ça s'entend quand même sur la fin. Et par contre, sur Riders on the Storm, là, bam.
Take a long holiday. And let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah.
Poursuivi par la justice américaine, Jim Morrison termine sa vie en France, pays de Charles Baudelaire et d'Arthur Rimbaud. Il a choisi Paris, guidé par son amour de la culture française. Il meurt d'overdose le 3 juillet 1971 et le reste du groupe a tenté de jouer les prolongations. Comme chanteur, ils avaient même pensé à Paul McCartney, puisqu'il venait de quitter les Beatles. Ce qui était quand même une drôle d'idée. « Le groupe va se déchirer par procès interposé concernant l'utilisation du nom The Doors, entre autres. Le batteur John Densmore raconte ses engueulades et autres souvenirs dans un livre qui s'intitule The Doors, l'héritage tumultueux de Jim Morrison, paru aux éditions Le Mot et le Reste. Et le récit de Densmore commence avec cette exclamation de Jim Morrison: allez tous vous faire foutre.
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man.
Pour écrire ce Pop & Co dédié aux Doors, on s'est plongé dans les livres de Jean-Yves Rezeau, dont vous avez entendu la voix au fil de ce récit. Jean-Yves Rezeau a notamment signé Jim Morrison ou Les Portes de la Perception aux éditions du Castor Astral. Le 7 octobre sera publiée une anthologie de l'œuvre de Morrison chez Massot Éditions et une campagne de prévente commencera le 21 juin sur le site Kiss Kiss Bang Bang. Je vous signale enfin que le 2 juillet, date anniversaire de la mort de Morrison à un jour près, sera diffusé sur Arte Jim Morrison, dernier jour à Paris. C'est un documentaire d'Olivier Monsens mis en ligne quelques jours avant la diff. Allô ?
Bonjour Rebecca, c'est Timothée.
Timothée Régnier, alias Rover, au bout du fil et au micro. Rover vient de publier un nouvel album il y a quelques semaines. On entrera dans l'une de ses chansons dans quelques minutes. Et il choisit un morceau parmi tous ceux que diffuse France Inter, maintenant.
J'en ai découvert un que je connaissais pas, et qui est le titre de Jane Birkin, Ces murs épais. Ça m'a d'abord fait plaisir d'entendre sa voix, qui fait partie de... j'allais dire du patrimoine, mais et puis qui est particulièrement belle en fait sur ce titre. Et puis les paroles, ça s'appelle Ces murs épais, donc la distance que met concrètement la mort en fait par rapport aux êtres qui nous manquent. Je l'ai compris comme ça et il m'a ému et il est bien produit. Voilà, le titre m'a plu.
J'ai déposé ces fleurs de printemps. Espèces au vent, jardinière pressée, les yeux noyés, comme je les hais. Rouge.
pardon, tu dormais », c'est le titre de l'album de Jane Birkin où figure cette chanson, et revoici celui qu'il a choisi pour Pop & Co ce matin.
Je suis un homme préhistorique avec les ordinateurs. C'est affligeant, j'ai pas du tout de...
Voici donc Rover.
J'ai l'impression que j'aime pas l'écran en fait. Quand je fais de la musique, j'aime pas voir la musique. Moi j'aime bien l'entendre.
Ah oui, parce que là en fait avec les ordinateurs, on voit le dessin,
voilà,
du son.
On voit les ondes, on voit le refrain arriver parce que ça devient plus épais. En fait, je suis un peu traumatisé de voir les images de studio, d'artistes. Et ils sont sept autour d'un écran, autour de cet élément qui devient central dans la musique aujourd'hui. Et c'est pas une critique, mais... Je suis en train de regarder l'écran en même temps que je parle. Je sais que d'ailleurs ça c'est omnibulant, c'est-à-dire que c'est une vraie cochonnerie.
Les instruments que vous utilisez, c'est des instruments anciens en fait.
À 100%. C'est 100% des instruments anciens qui sont utilisés en musique depuis plus de 40-50 ans.
Et pourquoi ?
Parce qu'on n'a pas vraiment fait mieux, à mon avis. L'énergie qui était mise pour construire un studio, pour construire des instruments. Ce que 20 ou 30 années met à un piano ou à une guitare, il n'y a aucune industrie qui peut le recréer.
Vous vous en foutez de l'air du temps, vous ?
Tellement. Ouais, c'est horrible de dire ça. Oui, mais moi, il y a longtemps que j'ai abandonné ce marathon-là. Je ne cours pas dans la même course du tout. C'est pas le bon combat quand on fait de la musique. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une peau de bête, il n'y a rien d'autre.
C'était presque ça, parce que son nouveau disque, Rover a décidé de l'enregistrer dans des conditions extrêmes, c'est-à-dire dans un lieu pas du tout fait pour. Sur les clés de cet endroit était gravé le mot « Eiskeller », ça veut dire « glaciaire » en allemand. « Eiskeller » est même devenu le titre d'une chanson et de l'album tout entier. Rover a donc passé plus d'un an dans une glacière du quartier Saint-Gilles à Bruxelles. Il y fait froid, forcément. Et quand vous parlez, ça sonne comme ça.
Bah, je pense que je voulais un endroit vaste. Je me cogne souvent, moi, dans les tables, dans le train, j'ai les genoux qui frottent, dans les voitures françaises. Je rentre nulle part, donc il y a...
Parce que vous êtes grand et costaud.
C'est pas forcément confortable au quotidien. Ça a des avantages, hein. Dès qu'il faut, il faut soulever une voiture parce qu'un chat est coincé, il y a des avantages. Mais c'est les rares fois où ça, c'est utile. Et là, le lieu me faisait oublier physiquement la place que je pouvais prendre. Et mes instruments étaient dans un coin, ils me paraissaient tout petits, une guitare, et tout avait l'air très petit, très fragile, et pour tuer un ego, il n'y a pas mieux comme endroit. Pour pas se sentir rockstar ou sûr de soi, il n'y a pas mieux que prendre un endroit qui est à la fois écrasant, hostile physiquement, avec le froid. Tout était fait pour ne pas m'encourager à continuer au quotidien.
Et c'est ça que vous cherchiez ?
Ouais. Il n'y a pas un plus grand piège que de tomber dans l'embourgeoisement. Quand on a 20 ans, on a la fougue. Et ça peut partir, ça part d'ailleurs.
Vous avez quel âge ?
40 ans. Donc il faut la cultiver, ça, il faut garder la fougue. Et se mettre dans des lieux comme ça, ça permet justement d'être fougueux. J'ai le seul moment rock'n'roll qu'on peut avoir, c'est cet instant-là qu'on ne peut pas me prendre, moi. C'est le moment où je crée, où j'enregistre. Le reste du temps, soit le travail de promotion ou de tournée, on a des feuilles de route, à 8h30, il faut être là, il faut être sur scène à 21h15 et pas 17. Tout est pris dans un étau d'organisation. Et moi, c'est important de m'isoler et de me mettre dans un endroit où j'en sors violenté, un endroit. Ça ne veut pas dire se faire mal, mais violenté, parce que j'ai vécu quelque chose qui...
D'extraordinaire. Et le disque issu de cette expérience commence avec cette chanson.
Thank you.
Ce matin, dans Pop & Co, on suit les pistes de ce morceau. Tooth is Tree, c'est le titre, et Rover, c'est l'auteur.
Je l'ai pensé comme une lettre, donc une lettre écrite qui devait être scellée et ouverte dans 20-30 ans, en pensant à la génération d'après ou aux proches, qui conseille un retour à un arbre-refuge un peu. Et je l'avais vraiment imaginé comme dans certains films d'animation ou certains films de science-fiction, où on serre l'arbre pendant la tempête et que le monde est chaotique et en flamme autour, et qu'en serrant l'arbre, en fait, il résisterait et qu'après on peut le relâcher et le monde allait renaître de ses cendres. Cette chanson conseillait de retourner à cet arbre. Alors pour certains, ça va être un disque, ça peut être un plat, c'est pas forcément un arbre pour tout le monde, je sais que...
Ça peut recouvrir d'autres symboles.
Oui.
J'aimerais bien qu'on écoute les claviers.
Les claviers, c'est mon vieux piano que je m'étais acheté il y a quelques années, qui est toujours en fond de mes chansons. Et il n'est pas utilisé comme instrument lead, à faible volume. J'adore la largeur en musique plus que la force. Et j'aimerais bien aller tellement plus à droite et à gauche en musique, au point que ça se rejoigne derrière la tête. Quoi.
C'est-à-dire au-delà du cinémascope, quoi.
Oui, complètement. C'est surtout d'avoir vraiment la sensation qu'une chanson vole, c'est-à-dire d'ouvrir les ailes d'une chanson.
Dans la glacière où Rover a enregistré, il avait installé un mélotron que vous entendez là. C'est un échantillonneur créé dans les années 60. On peut déclencher plein de sons différents avec des cordes, des cloches, des flûtes, des cuivres.
Et le saxophone, c'était toujours assez amusant dès qu'il arrivait ce son. J'ai joué le...
C'est donc Baker Street de Jerry Rafferty.
Il a double tranchant le saxophone, c'est très compliqué à mettre dans une chanson. C'est-à-dire que c'est très vite connoté, c'est très vite...
Coucher de soleil.
Ouais, blague, un peu, ah oui, t'as mis un sax. Alors que... À une lettre près, ça devient sexe, quoi. C'est quand même cool, quoi.
Retour au son de saxophone de Tooth is Tree.
Elle flirte cette chanson avec une très forte mélancolie, puis quelque chose d'assez lumineux, quand même. Et quoi de mieux qu'un saxophone ? Ça peut être aussi très...
Une sensualité torride.
Ouais, mais la vraie, ça collait... Parfaitement. Pour moi, c'était, il m'a rendu heureux, ce son de saxophone qui venait se poser sur cette chanson.
J'aimerais qu'on écoute la batterie.
Ah oui. J'aimerais aussi. Mais alors, elle est où ? Elle est là, drums. J'ai que beaucoup de chansons, le tempo ne met pas. C'est pour ça que c'est souvent des tempos très pachydermiques. Et il y a quelque chose comme ça qui est au milieu, c'est ni lent ni rapide. Mais oui, c'est un pas naturel qui me permettra de m'ancrer dessus au moment du chant. I can hear it in your voice. I can feel it in your heart.
Oh no.
Le micro était au milieu de la pièce. Et ce que je faisais, c'est que souvent, je mettais un micro dans un coin à l'autre bout, à 30 mètres, pour prendre l'espèce de traîne au loin de ma voix et de l'intégrer parfois dans l'enregistrement. Parfois, je me mettais sous des couvertures, mais bon, c'était ni à carien qui pouvait me faire tousser. Mais non, là, il y a l'écho de la glacière. Ouais.
Et le mot tree, finalement, on peut l'étirer comme on veut.
Oui, et puis ça fait partie de ces mots qui, une fois étirés, prennent un autre sens. Donc on passe presque dans le dream, on passe dans des sons où en fait la fin n'a plus de rapport avec le début. C'est pour ça que la langue anglaise est géniale pour ça, c'est-à-dire qu'on a une possibilité de pouvoir la déformer sans complexe, c'est-à-dire que c'est pas ma langue maternelle, donc il y a vraiment une possibilité de la brutaliser, d'inventer des mots, de rajouter des R au milieu et de... Je suis pas gêné de le faire. Je pense que la voix, c'est exactement le reflet de où on en est dans sa vie. Dès lors qu'on n'est pas obligé d'être trop démonstratif et d'accepter aussi des prises imparfaites, la langue qui fourche ou des fins pas forcément calées, C'est ce que moi je veux dans la vie. C'est ce qu'on appelle le charme chez les gens ou en musique. C'est tout ce qui sort de la maîtrise. Donc,
tout ce qui échappe, tout ce qu'on raconte malgré soi, quoi.
Ouais, exactement.
Ice Keller, c'est le titre du nouvel album de Rover. Ils seront en concert à Blois le 21 juin, au Francofolie de La Rochelle le 14 juillet, au Festival Baiser Volé de Saint-Malo le 9 septembre. Il y a des dates jusqu'en 2022 et vous les trouverez sur le site de Pop & Co, P-O-P-N-C-O. La réalisation de Pop & Co et de la chronique matinale Tube & Co est assurée chaque semaine par Coy Nguyen avec Ronan Mahé ce matin. Doc et recherche sonore de Pop et Tube & Co sont signés Ilinka Negulesco et Jean-Baptiste Audibert est aux avant-postes pour la programmation musicale. La semaine prochaine, je vous parle de la salsa et d'une chanson de Bertrand Burgala. À samedi!